BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous. Aujourd'hui dans HebdoCom avec Julien Carrez, le PDG d'Havas Paré. On viendra sur sa prise de fonction. C'était il y a un an. Quels défis l'attendent aujourd'hui? Il y répondra dans un instant. On s'intéressera aux chatbots, ces robots conversationnels utilisés par les marques avec Robin Coulet. C'est le cofondateur et directeur associé de l'agence conversationnelle et Thierry Spencer, directeur associé de l'Académie du Service. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Margot Dos, plume et reporter de la tribu Michel et Augustin. Elle nous expliquera ce que c'est que ce poste justement. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business. HebdoCom. Les news.
Et cette semaine, c'est Charlotte Bricard de la rédaction de CB News qui nous accompagne. Bonjour Charlotte.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Vallone que l'on retrouve bonjour pour les Aurélie. News. Alors Marie, cette semaine, faut dire qu'on a eu une campagne qui nous a fait un peu tourner bourrique. J'ai reçu une série de cartes postales. Il en est arrivé une par jour pendant une semaine, signée d'un certain Simon. Ça venait visiblement de plusieurs endroits dans le monde. Je ne savais pas qui c'était. Et j'ai enfin eu la réponse, Marie.
Et oui, la réponse était dans un dessin animé de 4 minutes où l'on découvre donc Simon, un trentenaire qui apprend le décès de son père. Ce dernier lui laisse une lettre où il parle d'un trésor caché dans une valise connectée. Simon mène donc son enquête et part à la recherche de la valise en parcourant le monde grâce à l'application qui la géolocalise. Derrière les cartes postales et le film d'animation se cachait en fait l'agence Buzzman pour la marque d'Elsay Paris. Avec cette question, est-ce qu'une pub pour une valise peut vous faire voyager? Eh bien pour nous, la réponse était oui.
Et puis Mythique hein, également qui dévoile une jolie publicité pour mettre en avant son application mobile.
Mythique nous présente une publicité en format vertical avec des vidéos enregistrée sur smartphone où l'on découvre l'histoire de Marc et Nina qui se sont rencontrés donc sur l'application Mythique. On remonte donc le temps avec la rencontre, les premiers échanges et puis leur un an ensemble et leur emménagement. Mythique dit s'être inspiré des 60% d'utilisateurs qui se connectent quotidiennement sur mobile. Le film est réalisé par l'agence Marcel et diffusé au cinéma et sur les réseaux sociaux.
Et puis Deezer lance une campagne de communication très française.
Avec des affiches sur lesquelles on peut lire Jane, ça sonne anglais mais c'est français, Black M, ça sonne anglais, mais c'est français. Catson Trees, ça sonne anglais, mais c'est encore français, tout comme Deezer. Et oui, le site de streaming a un nom qui sonne anglais, mais pourtant Deezer, c'est bien français, tout comme ces artistes auxquels la plateforme s'associe. La campagne sera visible tout le mois de mai avec une toile de 600 mètres carrés installée sur la façade du Louvre, mais du Louvre et des affiches aussi dans le métro parisien.
Et puis une campagne originale pour la marque Skoll dans le métro à Paris, justement.
Et oui, les Parisiens ont découvert cette semaine une station fantôme assez étrange, avec des néons bleus qui formaient dans le noir des lignes verticales. Il s'agit en fait de la station Saint-Martin entre République et Strasbourg-Saint-Denis sur la ligne 9, un arrêt fermé depuis 1939. Et cette opération est menée dans le cadre de la nouvelle campagne de la marque qui nous invite à explorer l'inconnu, la nouvelle signature de Skoll imaginée par l'agence La Chose.
Charlotte Bricard, c'en est fini des campagnes qui se suffisent à elles-mêmes. Il faut obligatoirement de l'événementiel à côté maintenant.
Obligatoirement, non. Je ne pense pas maintenant. La pub a vocation à surprendre et pour émerger et sortir du lot, on a intérêt à explorer l'inconnu. Je pense que c'était l'idée justement.
Merci Marie, on se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
L'invité de la semaine, c'est Julien Carrez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG d'Havas Paris. Vous avez été d'ailleurs nommé à ce poste il y a tout juste un an. Votre mission, c'était de faire évoluer le modèle de l'agence. Alors, un an après, qu'est-ce que vous avez fait?
Eh ben, on a à la fois, on s'est occupé des clients, du business, des prix, de la créativité. Et puis, on a aussi engagé un gros plan de transformation pour changer le modèle, le faire évoluer. Et on est en plein dedans. On a déménagé les bureaux la semaine dernière. Donc voilà, c'est work in progress. C'est en train de se faire en ce moment.
Charlotte.
L'heure est à la réorganisation dans l'ensemble des agences françaises. On a presque l'impression qu'il y a eu une sorte d'électrochoc en 2017. Qui ne se réorganise pas, ne fait pas bien le job. Quel regard portez-vous un peu sur l'ensemble de ces chantiers?
Je pense que d'abord, il faut bouger. C'est-à-dire qu'on est dans un monde dans lequel des choses qui étaient vraies il y a 3 ans ne sont plus aujourd'hui. Ils ne seront peut-être pas vraies dans 3 ans. Nous, on avait un pôle social media et un pôle digital qui étaient à part parce que c'était une vraie expertise. Mmh. Aujourd'hui, on les a fondus dans le même pôle de consulting. Et peut-être que dans 3 ans, on refera des pôles spécialisés. Je pense qu'il ne faut pas être psychorigide sur ces sujets-là. Il faut essayer de coller à la vie de nos clients et au rythme de nos métiers.
Alors j'ai lu une interview que vous avez donnée il y a quelques temps aux Échos où vous avez dit à propos de digital justement que Facebook c'était le nouveau TF1. Est-ce que le scandale des données personnelles, ça a changé votre point de vue ou pas?
Je pense que Facebook est très puissant. Et donc, je suis un peu comme tous les publicitaires. Je trouve que le terrain de jeu de Facebook est génial. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses. Il y a plein de nouveaux formats pour les marques. Après, je suis aussi un citoyen responsable et j'essaie de regarder le modèle. Et le modèle un peu spécifique de Facebook, c'est qu'ils mesurent eux-mêmes les performances des campagnes qu'on fait avec eux. Donc, je pense qu'il y a un sujet dans notre métier d'avoir une mesure de la performance et de l'accompagnement des marques qu'on fait sur Facebook. Et puis, il y a des sujets institutionnels, éthiques, de réglementation sur lesquels ils travaillent et sur lesquels je pense qu'il ne faut pas être naïf. Et on a des stars en France du digital, on a des marques formidables. Et il faut, je veux dire, être honnête et responsable dans la façon dont on regarde ces métiers.
Oui, sur les mesures ou sur l'éthique, on a eu beaucoup d'annonces ces derniers temps. Chacun y va un peu de son label. Pour autant, est-ce que ça va vraiment permettre de changer les choses, ces initiatives qui restent un peu franco-françaises parfois?
Je pense qu'aussi ces entreprises, elles sont américaines. Une grande partie des décisions se prennent aux États-Unis dans les sièges de ces entreprises et qu'en France, c'est plutôt des initiatives locales, de la commercialisation, des affaires publiques. Et il faut assumer que c'est aussi des combats internationaux, à la fois pour nos marques européennes qui doivent rayonner dans le monde entier et puis pour ces marques américaines ou chinoises pour d'autres qui s'adaptent aux réglementations spécificités du marché français et européen.
Charlotte. Pour vous, justement, les marques doivent entrer en politique. C'était la conclusion d'une étude que vous avez, un chantier ou une étude que vous avez menée en janvier. C'est au-delà même de la RSE.
En fait, ce qui est dingue sur le marché d'aujourd'hui, c'est que les gens, ils sont totalement ambivalents. D'un côté, ils nous disent que 70, 80, voire 90% des marques pourraient disparaître et ça ne leur ferait rien. Mmh. Et d'un autre côté, ils attendent les marques sur des terrains totalement inédits et ils les attendaient pas avant. Des terrains institutionnels, des terrains d'intérêt général, l'emploi, l'égalité homme-femme, la laïcité, le développement durable. Et je pense que les marques doivent se saisir positivement de ces sujets-là comme des sujets d'émergence, de différenciation, d'engagement vis-à-vis des parties prenantes, parce qu'aujourd'hui, on attend ces entreprises sur le terrain de l'intérêt général.
D'accord. Et sur le digital, comment est-ce que va se dérouler votre stratégie là dans les années à venir? Ça va être plutôt des acquisitions, plutôt de nouvelles offres? Comment est-ce que vous allez...
Mais sur le digital, je pense que j'aime bien la phrase de François Pérol. Il dit « Je veux pas devenir une banque digitale, je veux devenir la banque d'un monde digital ». Je pense que parler de communication digitale, ça n'a pas de sens. Notre monde est un monde digital, un monde social. Il est au cœur de la création, il est au cœur de la stratégie, il est au cœur des métiers d'influence, il est au cœur des métiers d'événement. Donc je pense que la bonne stratégie sur le digital, c'est d'en mettre partout et de changer nos logiciels et nos comportements à partir du digital. Je pense que c'est comme dans une rédaction, quand vous mêlez des journalistes qui viennent de la sphère digitale et de la sphère physique, c'est d'abord un choc culturel de comportement, c'est pas seulement des sujets techniques. Et donc nous, on est beaucoup sur cette idée de mixer les cultures.
Ça se traduit concrètement chez
Avastai? Par exemple, la chose qu'on a faite la semaine dernière, c'est qu'on a fait un seul plateau de consulting avec tous les consultants qui viennent d'une culture de marque, d'une culture d'influence, d'une culture de transformation et aussi ceux qui viennent de la culture digitale et sociale. Un seul plateau de 150 consultants en mixant, en hybridant, pour prendre un mot un peu savant, les expertises et les talents.
Vous hybridez aussi les expériences en termes de création, justement l'ensemble des campagnes qui sont sorties de Havas Paris dernièrement étaient toutes différentes. Il n'y en avait pas une traditionnelle, je pense, à la fois au couloir du métro dans lesquels vous avez casté les musiciens qui ont donné un concert pour l'anniversaire de la RATP, à des radios live pour le RER ou des campagnes immersives pour la Marine nationale. La pub tradi, c'est fini?
En fait, notre credo, ce à quoi on croit, c'est les nouveaux formats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut hybrider, là aussi, comme en consulting et en création, il faut hybrider les formats. Donc avec Christophe Koff, qui est le copatron et le directeur de la création de l'agence, on essaye de mixer. On mixe une BD et du digital pour effectivement l'armée de l'air. On mixe de l'événementiel et de la pub. On fait une série télé pour EDF, Jus d'Or, dont on sait plus très bien si c'est une série, une campagne ou un objet de pop culture. C'est ça un peu les nouveaux formats, c'est d'essayer de surprendre les gens, de casser les codes, d'aller les chercher avec des choses intéressantes. C'est-à-dire la publicité, quand elle est pénible, elle n'intéresse personne. Quand elle commence à casser les formats, à surprendre, elle devient assez passionnante.
D'accord. C'est votre casquette événementielle qui vous a donné cette vision des choses?
D'une certaine façon, oui. J'aime beaucoup ça. Je pense que l'événement est au cœur de l'actualité de toutes les marques. Vous l'avez dit dans vos propos juste avant. Les marques doivent surprendre, doivent aller chercher les gens, doivent interagir avec les gens. Et donc, publicité événementielle et réseaux sociaux font une mayonnaise très, 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 très riche.
Savoureuse. Vous avez lancé cette semaine justement votre dernière campagne qui est celle de la prévention pour les cancers gynécologiques. Vous pouvez peut-être nous en parler?
Oui, alors c'est une campagne pour l'association Imagine qui effectivement essaye de prévenir tous les cancers gynécologiques, qui est un sujet assez tabou, assez délicat. Et donc pour sensibiliser les femmes et les amener sur ce terrain-là, on a demandé à des comédiennes qui ont accepté ou des chefs ou des femmes de médias de témoigner et notamment de nommer le sexe féminin, alors avec tous les surnoms, tous les sobriquets qu'on peut donner au sexe féminin, et pour dédramatiser ce sujet, oser en parler, parce que si on dépiste ces cancers, eh bien on peut éviter 15 000 cas par an, donc c'est un vrai sujet de santé publique, et donc on a été dans ce travail un peu de délicatesse et de sensibilité sur la parole des femmes, sur un sujet qui est pas simple. Je crois que le film est assez joli.
Charlotte, on vient donc de dire, vous avez un an d'expérience à la tête d'Avas Paris, vous entamez votre deuxième année, c'est quoi votre ambition pour l'année à venir?
D'abord, mon ambition, c'est que il faut gagner des clients, développer nos clients. Donc il y a une actualité économique, et c'est clair que dans une entreprise comme la nôtre, c'est un des sujets. Mais aussi de continuer de transformer. Donc là, on est en plein milieu de cette transformation, et donc on veut l'aboutir autour de nouvelles cultures de consulting, autour de nouvelles offres. Par exemple, on va lancer dans les semaines qui viennent une offre sur la data et la CRM qui s'appelle Elia, avec Samir Amelal, qui est le patron de cette activité, parce qu'on pense qu'au cœur de la vie de nos clients, il y a ces sujets de data et de CRM. Simplement, on va le faire avec un logiciel un peu nouveau, parce qu'on le fait après d'autres. Et donc, on va regarder ce sujet avec aussi une conscience du sens des marques. C'est-à-dire que tout le monde, on a un peu assez de recevoir des tonnes et des tonnes de mails pour des produits qu'on a déjà achetés ou pour des produits qui ne nous intéressent pas. Comment on met la question de la data et du CRM à la croisée des questions de sens et de cœur des clients?
Merci Julien Carret. Je rappelle que vous êtes le PDG d'Avas Paris.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et cette semaine, Charlotte, on retrouve notre blogueur masqué, Joe Lapompe. Bonjour Joe.
Bonjour.
Cette semaine, vous nous avez sorti de vos archives des campagnes qui reprennent un peu une idée déjà éculée, celle de Mourad Osman, de sa série de photos, Follow Me Too.
Et oui, je viens de voir en Nouvelle-Calédonie, on a vu sur les murs là-bas une campagne qui reprend exactement le principe de la série qui a rendu célèbre le photographe Mourad Osman. Il a photographié sa femme aux quatre coins du monde et on la voit de dos, qui lui tient la main et qui l'attrape et qui l'amène dans des paysages féeriques. Et alors cette série de photos a été de nombreuses fois reprise par la publicité, par différentes marques. Mais là, ce qui est amusant, c'est que c'est encore une fois pour une compagnie aérienne, et c'était pas la première fois. Et c'était pas la seconde, et c'était pas la troisième, et c'est au moins la quatrième fois de ce que j'ai pu trouver que c'est repris par une compagnie aérienne, puisque ça avait été fait au Chili, au Japon pour une compagnie tahitienne, et si je me rappelle.
En Nouvelle-Zélande, non?
Non, pas en Nouvelle-Zélande. Ça a été j'ai complètement
foiré. En
France.
Me dit-on.
En France pour Air Austral, exactement.
Absolument.
Mais c'est pour ça. Voilà. Oulala. Trou de mémoire.
Et donc deuxième campagne, là aussi maintes fois reprise, parce que là aussi vous avez des exemples à l'appel, ce sont des enfants à barbe.
Oui, alors j'ai vu une affiche pour Burger King avec un enfant et une barbe, et je me suis dit, mais c'est pas possible que cette idée revienne encore en 2018.
Il y en a marre,
on a déjà vu ça. Alors en France, on avait déjà vu ça pour le parc Astérix, mais dans d'autres pays, on a vu ça un nombre incalculable de fois. J'ai été faire une petite recherche dans mes archives, et j'en trouve déjà il y a 18 ans, 20 ans, au début des années 2000, il y avait une célèbre pub sud-africaine pour Levi's avec un bébé qui avait une barbe et qui avait déjà fait le tour du monde. Donc voilà, vraiment une idée, un poil trop identique à tout ce qui se fait et qui s'est déjà fait.
Merci Joe Lapompe, on vous retrouve bien sûr sur votre blog et dans les colonnes de CB News.
Merci.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Le zoom du jour autour des chatbots, les robots conversationnels, avec Robin Coulet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur et directeur associé de l'agence conversationnelle, et avec Thierry Spencer. Bonjour.
Bonjour.
Directeur associé de l'Académie du Service. D'abord, revenir peut-être sur le concept même de chatbot. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? À quoi ça sert, Robin Coulet?
Un chatbot, en fait, c'est simplement le principe d'automatiser les conversations. Donc le chat signifie les conversations, toutes les messageries instantanées qu'on connaît. Et bot, évidemment, c'est le robot qui donc automatise et comprend la conversation.
Donc ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'interaction humaine à ce moment-là, Thierry Spencer?
Non, mais un chatbot vient dans un dispositif de relation avec le client. C'est une interface digitale et combinée avec une interaction humaine. Donc le chatbot prend sa place dans un dispositif qui vise à rendre le client plus autonome, à lui permettre d'avoir des réponses à ses questions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est principalement l'intérêt d'un chatbot appliqué au domaine de la relation client.
Donc ça, je comprends bien du côté du consommateur, du client. Mais alors du côté de la marque, Robin Coulet, qu'est-ce que ça lui apporte à la marque?
Ouais, ça lui apporte plusieurs choses. Déjà, les marques aujourd'hui, elles sont sursollicitées évidemment par les internautes et puis par les consommateurs qui ont des besoins, des demandes qui sont parfois récurrentes et assez fréquentes et à n'importe quel moment de la journée. Donc ça leur apporte déjà de pouvoir répondre à ce besoin-là, donc un besoin de simplification. Donc tout ce qui est un petit peu administratif, comme un chatbot pour Oui SNCF qui permet donc de pouvoir réserver son train, mais aussi on imagine les services publics aussi qui sont sur des démarches aussi qui sont parfois compliquées. Donc ça permet de simplifier, de fluidifier ce parcours-là, et ça leur permet aussi de pouvoir amener un service supplémentaire et donc augmenter l'usage, parce que en fait c'est du texte, c'est de la voix, on en parlera peut-être, mais en tout cas c'est du texte, c'est du français, et donc c'est très explicite comme interface, contrairement à un site web qui peut être plus compliqué. Et ça permet aux marques d'augmenter les usages, et par exemple pour un fabricant, de faire que ce fabricant peut inciter son internaute à mieux se renseigner, avoir accès à une information plus complète sur un produit, plutôt qu'un packaging qui est parfois un peu limitatif. Donc donner des informations supplémentaires, apporter un service à ce niveau-là, et puis aussi faire des guides d'usage pour essayer de conseiller sur l'utilisation d'un produit. On pense évidemment à tout ce qui est sur les utilisations, par exemple chez IKEA, les notices d'utilisation. Donc ça permet de rendre ça beaucoup plus, d'améliorer l'usage, d'améliorer le service. Et puis enfin, il y a la notion du commerce qui était évidente, ouais. Parce qu'un chatbot, c'est personnalisé. Donc on atteint un peu le graal de tout ce qu'on recherche tous, c'est-à-dire rentrer avec ses consommateurs dans une relation qui est unique. Et là, c'est quelque part une interface entre deux, une conversation entre deux personnes, l'une qui est robotisée, mais c'est quand même aussi une identité, et un consommateur qui a une réponse très personnalisée, qui lui est totalement adaptée.
Charlotte, vous parliez du chatbot de la SNCF, justement, oui. Thierry Spencer, vous avez lancé Best Robot Experience.
C'est ça, oui, j'ai essayé de
lancer une compétition. Oui, ce chatbot en particulier, pourquoi
celui-là? Oui, en fait, depuis 2010, j'analyse sur mon blog Le Sens du Client tous les robots, tous les chatbots qui sont destinés aux clients. Et puis, à l'époque, il y en avait 13 en compétition, et puis là, cette année, il y en a 24. Mmh. Et sur les 24, c'est WeBot de Oui SNCF qui est le grand gagnant. C'est le plus intelligent, le plus rapide, le plus simple. C'est celui qui, comme le disait Robin, effectivement, rend service aux clients. Hein. Finalement, c'est certainement la raison pour laquelle il a été élu par un jury qui a été composé d'étudiants, avec une méthodologie qui a été construite avec une agence du X-Design, Accenture, et puis avec un professeur de l'université de Nanterre. Donc on a fait les choses bien, sérieusement. Et effectivement, c'est ce robot qui a 10 000 utilisateurs par jour, hein, qui rend service à des milliers de personnes tous les jours pour réserver un billet, pour avoir des informations en temps réel. C'est ce qu'attend le client, et effectivement, il sort nettement par rapport aux autres compétiteurs.
D'accord. Robin Coulet, vous parliez d'améliorer les usages. Vous avez notamment travaillé sur le chatbot de Bledina. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un peu concrets?
Oui. Alors en fait, ce chatbot, il est né en fait d'une idée simple. C'était que les questions des parents, et donc par rapport à leurs enfants, n'attendaient pas. Donc ça répond vraiment à ça. C'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment au moment où les parents, les papas et les mamans se posent des questions sur l'alimentation de leurs enfants, pouvoir leur répondre immédiatement. Donc évidemment, le chatbot est tout à fait adapté à ça, puisqu'il permet de comprendre la question et puis d'apporter une réponse dans l'instant. Que ce soit le soir, le week-end ou à d'autres moments. Et on en travaille avec eux, donc d'abord sur une première approche qui est de mieux comprendre en fait comment sont composés les produits, donner une information vraiment précise sur l'impact environnemental des produits, sur la naturalité. Et puis en termes d'usage, de pouvoir aussi accompagner sur ce qui s'appelle la diversification alimentaire, c'est-à-dire le service à apporter l'information à apporter aux parents sur la manière dont l'alimentation progresse au fur et à mesure de l'âge de leurs enfants. Donc à travers ça, on peut, en posant une question sur l'âge de son enfant et un des ingrédients qu'on voudrait lui donner, savoir si c'est adapté à son âge.
Charlotte. Dans les questions que peuvent se poser non pas les parents, mais les annonceurs qui réfléchissent à l'usage de cette technologie,
oui.
On a vu que Nice Matin avait justement tué Thibaut, le sien, qui avait tout juste un an.
Oui.
Quels sont les conseils qu'on peut donner à un annonceur qui réfléchit à utiliser un chatbot, à développer le sien?
Premier conseil, ce serait de ne pas faire un chatbot pour faire un chatbot. Il y a eu peut-être toute une tendance aussi, à un moment donné, de se dire qu'il y a une nouvelle technologie qui avance. C'est pas du tout une avancée technologique. Un chatbot, c'est assez ancien, finalement. Cette technologie existe depuis longtemps. En revanche, la vraie révolution, la vraie différence, c'est que les marques se mettent à parler de façon personnalisée. Donc, il faut bien qu'elles définissent ce qu'elles veulent dire. Et je pense que le cas de Nice ce matin était un peu celui-ci. C'était peut-être de faire un chatbot un peu global sur de l'information, de l'actualité, sur beaucoup de sujets, peut-être beaucoup trop, qui ont fait que le projet a été intéressant, mais ils se sont vite rendu compte qu'il fallait mieux délimiter le périmètre de la conversation. Mm-hmm. Donc la première des choses, c'est déjà savoir ce qu'on veut dire et être très clair sur l'usage qu'on veut faire de ce chatbot, parce que c'est pas l'ensemble d'un site, c'est vraiment un usage spécifique. Pour Blédina, la diversification alimentaire, pour Oui SNCF, la réservation.
Thierry Spencer, justement, on a des mesures de l'efficacité de ces chatbots. Est-ce que ça se mesure? Est-ce que ça se quantifie?
Ça se mesure, hein. C'est toutes les mesures du design d'utilisateur, hein, l'UX design. Mm-hmm. Et on peut effectivement, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour Best Robot Experience, c'est que on a mesuré la simplicité, on a mesuré la rapidité en posant des questions à l'utilisateur. Mm-hmm. Et effectivement, eh bien, un bon robot, c'est un robot qui bien conçu au départ, mais ce que j'observe, hein, vous faisiez référence au chatbot de Nice matin, le cimetière des robots, il est plein de robots qui ont été lancés comme des gadgets et qui aujourd'hui sont morts de leur belle mort digitale. Mais parce que souvent, et je le vois par exemple dans tous les lauréats de mon prix, je vois que sur les 7 lauréats passés, il y en a 5 qui sont morts.
Ah oui, quand même.
Parce que l'entreprise ne soutient pas un effort, l'effort de nourrir une intelligence artificielle, parce que si on le conçoit effectivement comme un coût pour quelques mois, ou si on ne le met pas dans un dispositif complet de relation client, eh bien on a toutes les chances de le voir mourir un petit peu comme une plante verte qu'on n'aurait pas arrosée ou dont on n'aurait pas pris soin.
Merci beaucoup Thierry Spencer. Je rappelle que vous êtes le directeur associé de l'Académie du Service et Robin Coulet, le cofondateur et directeur associé de l'agence conversationnelle.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Margot Dos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes plume et reporter de la tribu Michel et Augustin. Qu'est-ce que c'est que ce poste?
C'est vrai qu'on a des noms un petit peu originaux en général pour décrire nos fonctions au quotidien. Alors moi, ma mission, c'est de raconter, partager et co-construire notre aventure en temps réel. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ma mission, c'est un petit peu comme un journaliste, d'aller capter de manière authentique et instantanée ce qui est en train de se passer, que ce soit à la bananeraie, donc dans nos locaux, dans la cuisine par exemple, quand on est en train de concocter la recette de demain, sur le terrain aussi, en magasin, et en fait un petit peu partout aux quatre coins de la France.
Alors c'est vrai que c'est très dans l'ADN de la marque de, disons, communiquer de façon un peu humoristique, un peu originale. Notamment, ça a toujours été un choix de Michel et Augustin de passer par le packaging, par les réseaux sociaux. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas une communication plus classique? Ça correspond pas à l'image de la marque?
Ah non, c'était pas du tout l'envie au départ. Quand Michel et Augustin se sont lancés en 2004, ils avaient vraiment envie de casser les codes. C'est pas pour rien qu'on s'appelle les trublions du goût. Il y avait cette envie un petit peu de déranger, de faire les choses à leur façon. Et le packaging, par exemple, et les réseaux sociaux, c'était une manière différente à l'époque de passer un message, de partager vraiment notre aventure. On y raconte vraiment plein de choses. On est très 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 bavard et on aime interpeller directement via ces supports.
Et alors vous êtes très bavard, mais surtout vous êtes très bavard grâce à une communication qui est 100% en interne. Vous aimez pas les agences?
Non, c'est pas ça. C'est pas qu'on les aime pas, mais c'est vrai qu'on tient à notre bébé et on se dit que qui mieux que nous peut justement partager cette aventure. Donc effectivement, que ce soit le packaging, nos campagnes de communication, nos réseaux sociaux, notre relation client, tout est vraiment imaginé en interne. Nos événements, bien sûr. On adore justement pouvoir partager, créer pas mal d'expériences. Et voilà, on est là, donc on peut raconter ce qui se passe.
Alors justement, à propos d'événements, là vous êtes en campagne pour ce qui va s'appeler 3 jours pour entreprendre avec nous. De quoi s'agit-il?
Alors 3 jours pour entreprendre avec nous, c'est un événement 100% dédié aux étudiants. Donc on a lancé un appel pour recruter 200 étudiants qui viendront vraiment vivre 3 jours au rythme de la tribu du 24 au 26 mai. Mmh. L'idée, c'est vraiment de les immerger dans notre quotidien, de leur partager notre passion du goût, de l'entrepreneuriat, de l'audace, cette envie de se dépasser au quotidien, et aussi de les emmener sur le terrain et qu'ils se confrontent un petit peu à cette réalité de mouiller le maillot sur le terrain, être au contact des consommateurs. En fait, voilà, on a envie de leur montrer ce que c'est vraiment que l'entrepreneuriat au sens très très large.
Et vous avez reçu beaucoup de candidatures en plus.
Oui, on a reçu 2786 candidatures pour 200 étudiants qui vont être retenus. Donc là, on vient de passer 3 jours très intenses à
éplucher
tout ça. Éplucher, exactement. Et enfin, c'est fou à chaque fois, tant de passion.
Mais c'est quoi le but d'une opération comme ça?
Alors le but, c'est ce côté partage. On a toujours envie, le partage, c'est partout. C'est ce côté, voilà, partager ce qu'on vit, vraiment, montrer ce qui se passe. On adore les étudiants, faut le savoir. On communique beaucoup auprès d'eux. On est devenu, pour notre plus grand bonheur, un cas d'école. On est devenu un sujet de bac pro, de BTS. Mm-hmm. Donc c'est aussi pour leur permettre de s'immerger encore plus et leur montrer notre quotidien.
Et pourquoi promouvoir l'entrepreneuriat plutôt que finalement le CAP pâtisserie?
Ah, mais on prône aussi le CAP pâtissier, pas aux étudiants directement, mais c'est vrai que faire rayonner le savoir-faire pâtissier, c'est aussi une ambition. Les 3 jours pour entreprendre, c'est aussi l'occasion de leur partager, comme je l'ai dit, notre passion du goût. On leur explique vraiment comment nous, on développe nos recettes, l'importance du goût, du choix des ingrédients. Et voilà, c'est vraiment, c'est assez complet comme transfert de compétences, de connaissances, d'expériences.
Merci beaucoup Margot Dos. Je rappelle donc que vous êtes plume et reporter, puisque c'est votre titre, de la tribu Michel et Augustin. Merci également à Charlotte Bricard de la rédaction de CB News d'avoir été à mes côtés cette semaine. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec un best-of d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdo.com sur BFM Business.